Voilà, Radio Libertaire, Radio Libertaire. Radio Libertaire, 89.4 MHz, la radio de la Fédération anarchiste. Et dans la minute qui suit, vous allez suivre l'émission de la Ligue des droits de l'homme, voilà, qui va vous emmener donc là de 20h à 22h. Et le thème, voilà, donc le thème qui est pour cette émission du 6 janvier 2023, Sylvie Boitel, qui vous présente une émission de la section du 12e et sur les pratiques de verbalisation abusive des jeunes dans les quartiers populaires. Voilà, donc je vous laisse avec ces 2 heures d'émission, de superbe émission donc, enregistrée pour Radio Libertaire. Et bonne année à tous.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 89.4 Radio Libertaire, l'émission des droits et des hommes, et vous êtes avec la Ligue des droits de l'homme comme tous les premiers vendredis du mois. Aujourd'hui, la section du 12e arrondissement de Paris. Nous avons choisi de consacrer cette émission à la question de la verbalisation des jeunes de Paris, notamment du 12e, et des problèmes que cette pratique de verbalisation suscite auprès des habitants des quartiers populaires et des conséquences sociales de ces amendes. Donc moi, je suis Sylvie Boitel, présidente de la section du 12e et avocate également. Et je vais passer le micro à Théophile.
Merci Sylvie. Donc Théophile Barbu, je suis adhérent de la Ligue des droits de l'homme, membre de la section du 12e de la Ligue des droits de l'homme. Je suis également bénévole, écrivain public au Relais 59, qui est un centre social dont les locaux se trouvent à la gare de Lyon et dans le quartier de Reuilly-Montgalet, dans le 12e arrondissement de Paris. Avec nous pour parler de cette question des amendes, Nathalie Théot.
Je suis avocate pénaliste et je suis membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme.
Joëlle Bordet.
Moi, je suis membre de la LDH, je suis au comité national. Je suis très contente de travailler avec Nathalie Théot sur ces questions que je pense extrêmement importantes pour les quartiers populaires, mais aussi l'avenir démocratique de notre pays. Et je suis chercheuse psychosociologue et je suis ces questions depuis une trentaine d'années, en fait.
Merci. Enfin, également avec nous, Marc Ball.
Moi, je suis réalisateur de documentaires et notamment du documentaire « Police illégitime violence » qui avait pris pour point de départ la plainte collective des jeunes du quartier Rozanov dans le 12e et qui permettait d'explorer un peu la question des violences policières. Et je suis revenu récemment refilmer un peu dans le quartier pour faire une vidéo qui s'appelle « Police illégitime violence 4 ans après » et où un des points importants qui ressort, au-delà du fait que les violences policières perdurent, c'est le recours un peu systématique aux amendes.
Pour nous aider justement à comprendre dans quel contexte interviennent ces verbalisations, nous allons écouter un premier extrait de ton documentaire. Et ensuite, tu nous parleras de ces rencontres avec les jeunes habitants et de ce qu'ils disent de leur situation.
Nous, ça n'a pas changé, hein. Mais en fait, nous, avant, quand nous, y a eu le film il y a 4 ans, on était plus petits, ces gens, on n'était pas trop là, ces gens, on ne sait pas trop comment c'était, mais grâce au film, on a vu un peu comment c'était. Mais sinon, là, comment ils sont là, comment ceux qui sont plus grands que nous, ils se plaignent dans le film, là, c'est pareil, hein. Ils viennent, ils frappent pour rien, on va dire, on est posé, en gros, même si, en gros, on leur a rien fait, ils viennent, ils vont mettre un coup d'extinct, comme ça, après, là, ça dégénère, il y aura un truc. Ils vont chercher un truc pour nous embarquer, rébellion, un truc comme ça.
Avec la police, ils sont vraiment méchants, la police du 12e, hein, sans aucune raison, comme ça. Ils peuvent t'insulter de sale noire, comme ça, des trucs comme ça, de nègres, en mode courir comme des singes. Ils nous l'ont déjà dit ça un jour ici. Et un jour, je revenais des cours comme ça, j'avais rien fait. Hein. J'étais sur la rue Erard, là, sur le truc à côté, là. Et en gros, j'étais tout seul et mes amis, ils avaient couru parce que, en gros, ils avaient couru comme ça, ils couraient, ils jouaient. Et ils m'ont frappé. Comme ça. Mais je me suis défendu. Mais ils m'ont frappé.
Moi, j'étais pas là, je pense, quand vous avez fait votre premier film.
Mais je pense que ça se dégrade de plus en plus, parce qu'il n'y a rien qui change. À chaque fois, on va dire, pendant un temps, ils vont se calmer un peu, ils vont revenir à la charge comme ça, tout le temps, à force. Et bah, nous, en gros, nous, tellement c'est habituel, on s'en fout en vrai un peu. Enfin, pas on s'en fout, parce que ça change quelque chose à notre vie, mais on laisse couler, on va dire. Il y a plein de moments où, quand tu vas être posé dehors, et bah, ils vont venir, mais là, vraiment, à beaucoup, on va dire, 4 voitures. Et ils vont venir et ils vont essayer de faire, même pas contrôler, hein, juste, excusez-moi pour la grosseté, mais niquer un peu les premières personnes qui croisent, vraiment, on sait même pas c'est quoi leur but, vraiment juste là pour nous montrer qu'en gros, c'est eux qui règnent dans le quartier, on va dire, hein, entre guillemets.
Il y a un an de là, j'étais avec, carrément, il y en a, je crois, ils sont là. On était posé au 33 rare, on est assis, les policiers ils viennent, ils nous contrôlent. Je sais pas, il y en a un dans le tas, il était là, il cherchait la merde. Sans vous mentir, il cherchait la merde. Il mettait des coups de taser à mon pote. Mon pote, il lui répondait en mode, pourquoi tu fais ça? On lui demandait, ça l'amusait. Je comprenais pas du tout. Je vois, il y en a un autre, il vient et en mode, il me tabasse, il me lynche. Ils ont pris ma casquette carrément, ma sacoche, tout, ils m'ont tout pris. Je me suis relevé, j'ai couru. Ils couraient derrière moi alors qu'ils me connaissent. J'ai couru jusqu'à dans un parking. Je me suis coffré dans un parking, j'ai attendu une heure. J'ai appelé mon pote, carrément il est passé. Je l'ai appelé, il est venu me chercher en trottinette. Je suis rentré chez moi, j'arrive en bas de chez moi. Je vois, ils sont encore là. J'arrive en bas de chez moi, ils sont là, ils veulent me taper, m'embarquer, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. En tout cas, moi j'ai couru encore une fois. Je prends la fuite. Moi, ils me font peur, moi, en fait. Moi, à chaque fois que je les vois, mon cœur, il bat vite. Je peux pas rester à côté d'eux.
Voilà, donc c'est un premier extrait de cette vidéo qu'on a décidé de faire 4 ans après le premier documentaire, donc Police illégitime violence. Et l'idée, c'était d'aller voir la nouvelle génération de jeunes de ce quartier, c'est-à-dire, on parle de jeunes qui ont 14, 15, 16 ans. Et c'était à l'époque de la plainte donc des jeunes du 12e, pour une quarantaine de faits, c'était 18 jeunes qui avaient porté plainte contre une brigade de police. À l'époque, les jeunes avaient 14-15 ans. Et l'idée, c'était de revenir en 2022, voir les 14-15-16 ans. Et j'en suis ressorti, mais déprimé, vraiment. C'est-à-dire, je m'y attendais. Je sais bien que, malgré le procès, malgré la tension médiatique, je pensais qu'il allait avoir une évolution. Mais j'ai été vraiment surpris, en fait, de voir à quel point c'est les mêmes histoires de racisme, d'insultes, de coups pour rien. Et j'y étais aller avec le sentiment que peut-être le film et l'affaire, le procès allaient permettre une accalmie, mais en fait le constat il est assez triste. C'est comme si c'était le fonctionnement normal, en fait, pour des jeunes noirs et arabes dans un quartier populaire, c'est de connaître des coups, de jouer à ce jeu du chat et de la souris qui est glauque. De se faire poursuivre jusqu'en bas de chez lui. Le dernier témoignage est effrayant, où ils sont encore là à l'attendre et qui vivent avec la peur. Ça, c'est des choses que moi, j'ai entendues il y a 4 ans. C'était les choses contre lesquelles les jeunes s'étaient révoltés et avaient porté plainte. Donc voilà, force est de constater que malheureusement, ça continue, quoi.
On était jeunes, on était pauvres, on s'amusait d'un rien. On savait pas qu'on était en chien, les larmes aux yeux quand je revois l'étoffe. Parce qu'on s'en est pas tout sorti sain et sauf. Comme étendard, on brandit nos taudis. Mais en vérité, on veut la tête des fils de pute qui nous y ont mis. Je reviens de dame, j'ai du caramello. Je le paiera comme je le vide, là comme tes armes. 9-3, c'est Sarajevo. J'en ai 22 aujourd'hui. J'ai rentré 1700 eux. Qu'est-ce que je vais aller travailler pour eux? Je vais me casser le dos, ils payent peu. De la coke ou de la peu. Qu'est-ce que tu veux? Laisse les types y suivre. Qu'est-ce que tu peux? Le cœur à plat sur la mélodie. J'ai perdu trop de choses qu'on ne remplace pas. Je déteste les cérémonies, leur cynisme et leur ironie. Je rappe juste les avarets d'une vie comme au début, mais à la fin j'aurai les Caraïbes. un truc bien, même si c'est pas le paradis. Tant que je suis loin de leur parade et de leur fausse camaraderie, ce que je fais c'est de l'art. Et je vais tout ken comme dans GTA. Oui, pas besoin de refrain pour cette putain de mélodie. Satan, toujours aussi du père, mais je suis quand même devenu père. Aujourd'hui tu me demandes pourquoi je fais des sons vulgaires. Pourquoi j'ai quitté ta mère, elle croyait pas en ma musique. Alors qu'ils voulaient tous gratter des feats, mettre ses rappés c'est débile. Premier texte, je poussais des pins, je suis pas ces mecs qui aiment rapper c'est les filles. T'y arriveras jamais, tu crois que t'es qui toi. Moi c'est souffrance et quand je paierai, y'a des forêts qui brûlent, y'a des corées qui hurlent. La savane m'accueille comme si je dessine pas. Je mets tes images dans ta tête, pourtant je dessine pas. La vie c'est pas si le fallait s'y faire. Connais la leçon, elle est si merde. Un jour on aura tous le corps inerte. J'ouvre un courrier, encore une merde. J'ai besoin d'air et d'herbe, mes repères, mes repères. Les pieds sur terre et la tête dans une fumée épaisse. Force d'écrire des textes, j'ai bien finir par faire entrer tes pièces. Check, check, tu connais les dièses. 31 dièses sec, j'fais du peste de mes 16. J'rentre dans un jet lag et j'lag et jette mon cul de joint dans l'allée. J'en fais l'avenue des Champs-Élysées. J'tire des idées, des bridées et répréhensibles qui brisent leurs cibles. Mais s'il était les guidés pour me payer en stream.
Voir la joie des mômes, y'a que leur sourire qui soit comme un rayon de soleil dans mes ténèbres. Jamais ma stricte réalité, d'ici décor mon secteur, je gâte au ghetto plateau.
J'ai plein d'espoir pour ceux qui souffrent. Je veux satisfaire mes désirs et saisir ma chance.
Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Débarque, 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 débarque. Qu'il débarque, qu'il débarque, qu'il débarque, qu'il débarque.
Joël Bordet, tu connais bien ces jeunes des quartiers populaires. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette situation perdure dans les quartiers, comment elle évolue aussi, comment cette conflictualité entre les jeunes et la police semble vraiment ancrée dans le vécu de ces quartiers?
Merci pour la parole. Moi, ce que je trouve très frappant dans ce que Marc, tu ramènes avec les interviews des jeunes, c'est qu'on est dans un vécu de l'humiliation qui, je pense, n'a pas toujours existé de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est là que je pense qu'il y a une vraie bascule depuis quelques années, parce qu'elle est réelle, l'humiliation, elle est dans la vengeance aussi. Et pourquoi ça a lâché à ce point-là? C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui la police française peut se venger en portant l'uniforme de quelque chose qui serait un règlement de compte, qui serait un racisme, qui n'y aura pas de limite? Alors, la question, elle est puissante, hein, je ne vais pas y répondre en 3 minutes, c'est impossible. Et puis, il faudrait croiser des points de vue. Et puis croiser aussi de quand est-ce que ça nous est arrivé, en fait, qu'on est rentré dans un vécu de l'humiliation à ce point-là. Alors, j'ai quelques idées, mais pour ça, je pense qu'il faut revenir un petit peu. Moi, je vais donner quelques repères qui sont les miens. Hein. Je veux dire, on pourrait tout à fait faire un colloque sur cette question, d'essayer de comprendre la généalogie de cette question-là, qui est une vraie question. Parce qu'à la dénoncer sans l'analyser, ben, on peut toujours dénoncer. C'est très important de le faire. Moi, je pense que ce que tu fais, c'est essentiel. Il faut toujours la donner à voir. Cependant, si on veut essayer de comprendre un petit peu comment on en arrive là, je crois qu'il faut faire un peu de la généalogie. Et moi, c'est vrai que le quartier populaire, de ce que j'ai lu, parce que moi, je suis arrivée dans les quartiers populaires dans les années 85. Hein, les quartiers populaires urbains, ils existent largement avant, dans des bidonvilles, après. Et puis, il y a eu la construction des grands ensembles, donc dans les années 60. Là, et là, il y a toute une histoire, déjà, du rapport jeune police avec la délinquance, ce qu'on a appelé la délinquance, mais ce qu'était de la délinquance aussi. Et puis aussi, les rapports d'affrontement entre jeunes et entre jeunes bourgeois. Moi, il y a un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle « Blouson noir, blouson doré » de Jacques Monod. Vraiment, on voit bien qu'à l'époque, à Paris, ça castagnait entre les classes sociales, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire aussi des affrontements entre jeunes qui n'est pas nouvelle non plus. Et aussi de ce que représentait l'affrontement. Et ce que représentait l'affrontement entre des classes sociales, dont et la police, qui était aussi un élément du pouvoir aussi. Donc, mais là, on est dans une certaine époque, et à l'époque, quand on lit autour de ça, on n'est pas dans l'humiliation, on est dans des confrontations, on est dans des violences, on est dans des meurtres, enfin, il ne faut pas non plus la raconter. Il y a eu aussi des jeunes en prison, il y a eu aussi des familles qui ont été taxées, enfin, je veux dire que rien n'est nouveau de ce point de vue-là, parce que la police aussi devait intervenir, enfin, voilà. Mais donc, la violence, elle fait partie aussi d'abord des rapports sociaux, et puis elle fait aussi partie des quartiers populaires. Et bien sûr, les quartiers, c'est pas que de la violence. Et puis, c'est aussi des jeunes qui sont pas dans cette violence-là. Dans les jeunes qui vivent dans le quartier, ils sont pas tous aux prises non plus avec l'humiliation, avec la police. Hein. Là, c'est une partie des jeunes qui vivent dans le quartier, qui s'exposent davantage, qui ont aussi une histoire de lien avec la police où on joue le jeu du chat et de la souris, et qui se sont construits avec ça. Donc, c'est absolument pas tous les jeunes du quartier, mais il y a des jeunes du quartier qui sont dans leur rapport à l'espace public, dans leur rapport avec la police et dans les rapports à l'espace public. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mon bouquin qui s'appelle Les jeunes de la cité, qui est devenu mon bouquin, mais où j'ai passé beaucoup de temps avec les jeunes sur la dalle. Franchement, je passais des journées entières. Et c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment, on attendait. Alors, toute la journée, on attendait. Alors, on buvait un peu, ils prenaient des trucs. Moi, j'en prenais pas, mais ça a duré longtemps. Hein. Tu sais, c'est le désert des Tartares. Mais qu'est-ce qu'on attendait? C'était que la police arrive. Parce que alors là, ça commençait à valoir le coup, quoi. Mais t'imagines, quand t'as 15 ans, que tu vas plus à l'école, que tu fixes la dalle et que t'attends quoi? Que les flics, ils arrivent. Et puis alors là, ça commence, voilà, là, ça commence à être du sérieux, quoi. Et c'était souvent en fin d'après-midi, bien sûr. Voilà. Donc il y a un rythme aussi des quartiers. On descend dans le quartier à 13h, 14h, on commence à s'installer, on boit un coup, on discute, on bavarde, on rigole, on attend, on s'ennuie. Puis tout d'un coup, ah, enfin les flics arrivent. Il faut aussi regarder ce que c'est qu'un quartier, quoi. Et tous les quartiers ne sont pas les mêmes. Mais il y a une histoire des quartiers avec ça. Il y a une histoire à Grigny, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. À Grigny, la Grande Borne, c'est pas le 12e, quoi. Donc les modes d'affrontement ne sont pas les mêmes et les modes d'intervention policier ne sont pas les mêmes. Donc, il y a aussi, j'allais dire, presque une ethnographie, enfin, une anthropologie, c'est sûr, des quartiers autour de cette question-là. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers très différents. C'est sûr que quand Amar Eni, qui travaille à Grigny, me montre presque tout le temps des photos, en ce moment, des vidéos d'affrontements entre la police et les jeunes à coups de mortier à Grigny, c'est pas ce qui se passe dans le 12e, c'est pas les amendes, quoi. Mais il y en a aussi des mortiers. Mais là, c'est toutes les nuits. Hein. Donc, si tu veux, il y a aussi des quartiers où il y a une histoire de la violence qui n'est pas les mêmes partout, c'est ça que je veux dire. Quand je travaillais au Tilleul et que tu avais les hélicoptères qui tournaient, que le quartier il était entouré et qu'il fallait présenter sa pièce d'identité pour rentrer chez soi, c'est encore autre chose. Tu vois, et ça aussi, c'est très important de regarder qu'il y a une généalogie de la violence, il y a une histoire de la violence. Elle est malheureusement jamais éradiquée, parce que ça n'existe pas. Par contre, comment elle est traitée et encadrée? Et quel est le rôle de l'État dans cet encadrement? Et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup bougé. C'est que c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser, par exemple, la justice des mineurs avait un rôle très important. Les procureurs avaient un rôle important, même sur les modes d'intervention policière, et surtout les commissaires. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment aussi une organisation policière qui faisait aussi qu'il y avait un encadrement de l'intervention policière. Parce que je pense aussi que quand tu es sur le quartier à être en confrontation avec ces jeunes, eh ben, si tu as une histoire d'affrontement qui s'arrête jamais et que tu n'as pas un tiers institutionnel pour poser ça en disant maintenant ça s'arrête parce que là c'est trop, là il faut redescendre, etc., enfin réguler l'affaire, quoi, ben, là ça peut partir en live tout le temps. Tu vois, et c'est vrai que c'est ce que j'avais repéré dans le 12e, c'est comment aussi bizarrement la présence de l'IGPN, c'est ça, hein, avait fait entre autres monter l'affaire. C'est-à-dire que pour eux, c'était franchement un truc formidable d'aller à l'IGPN et puis après d'aller porter plainte. Il y avait tout un cycle qui s'était créé autour de ça. Alors ça, c'était vraiment intéressant, parce que c'est pas tous les quartiers où tu peux aller voir l'IGPN pour dire pour se plaindre. Et c'est, enfin, ça avait créé aussi une espèce d'anthropologie spécifique de la violence sur le 12e. Ce qui n'est pas sans faire comprendre comment vous êtes arrivé à monter le procès. Et ce qu'on ne peut pas faire partout. Donc, il y a eu aussi une espèce d'anthropologie spécifique de ce quartier, avec les militants, avec la question des institutions policières présentes sur le quartier. Et je dis ça, c'est pas un aspect critique, c'est pour dire que de quartier à quartier, on peut faire des monographies qui sont significatives de ça. Et que le mode d'encadrement qui s'est passé dans chaque quartier, c'est pas le même. Moi, j'ai bossé avec des commissaires à Garges-lès-Gonesse, je me rappelle, qui avaient un rôle extrêmement important de régulation de l'intervention de leurs policiers. Alors ça a beaucoup... Et donc il y a eu une époque où il y avait, j'allais dire, à la fois des contre-pouvoirs à l'intervention directe jeune police, à la fois par la justice des, quand même, la justice des mineurs. Tu avais des jeunes qui étaient suivis par des juges pour enfants dans ces jeunes-là, bien sûr, avec des éducateurs. Enfin, les éducateurs ont fait tiers quand même dans la vie des jeunes, dans la vie des familles et dans le rapport avec la police. Voilà. Et pendant longtemps, on a créé des maisons de justice et du droit à une époque aussi pour avoir une politique, j'allais dire, où à partir de là, on pouvait positionner la dissuasion ou des effets indirects de règlement de la violence. Et je pense aussi à la police de proximité. Moi, j'ai bossé 5 ans avec la police de proximité parce qu'à l'époque, je travaillais dans la police. Pour eux, la police de proximité, je ne dis pas que c'était l'idéal, mais il y avait des formateurs de police qui étaient sur une philosophie de la dissuasion. Donc, et on travaillait sur comment être stratégique sur un quartier pour protéger les habitants aussi. C'est-à-dire qu'aussi entendre que les habitants qui vivent dans la confrontation ou à côté de la confrontation jeune police, c'est extrêmement difficile. Donc c'était aussi prendre le point de vue des habitants pour rassurer tout le monde en fait. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir de ça, c'est que M. Sarkozy est arrivé, il a cassé ce choix politique qui était quand même d'essayer de continuer à combiner une forme de régulation et même d'aller sur plus de dissuasion, c'est-à-dire de renforcer. Et on vient de très loin avec la police française, parce que la police française, elle a quand même une histoire de dénonciation, elle a quand même une histoire d'intervention permanente, elle a une histoire... Voilà, c'est pas... Et c'est pas la gendarmerie, par exemple. Donc, on a aussi des corps de différents pour régler ces questions-là qui sont pas les mêmes en France et qui seront peut-être différents de la police anglaise ou de la police, finlandaise, etc. Il y a des histoires de police. Et nous, notre histoire de police, elle nous amenait pas facilement à la dissuasion. Parce qu'il y a quand même une tendance quand même à vouloir... Voilà, il y a une histoire coloniale aussi avec la police. Je ne dis pas que la police, elle est coloniale, mais forcément, elle s'inscrit dans notre histoire. Et il y a eu effectivement aussi des gens, j'allais dire, qui ont été de ce côté-là. Donc, elle est traversée par ça. Et elle est traversée aujourd'hui énormément par le Rassemblement national. Donc, il y a aussi à l'intérieur de la police des gens qui se sont bagarrés toute leur vie pour démocratiser la police, pour transformer ces questions-là. Et donc... Moi, je pense que c'est intéressant pour ça, tous les travaux qu'on puisse faire de Jobard et de d'autres gens sur ce qu'est la police, pour comprendre aussi pourquoi ça réagit comme ça, un corps de police. Et je pense que Sarkozy, effectivement, avec l'arrivée de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, avec le projet politique qu'il portait, eh ben, il s'est appuyé sur ce qu'on appelle aux États-Unis la tolérance zéro. C'est-à-dire, on est passé, mais vraiment, moi, je travaillais à l'époque à cette question de la dissuasion, avec des formateurs de police passionnants, franchement, et qui s'appuyaient beaucoup sur les travaux des Canadiens. Et du jour au lendemain, M. Sarkozy a convoqué le gars qui avait inventé la police de proximité en France, il l'a humilié au commissariat de Toulouse, et ça a été terminé. Parce que c'est ça aussi l'autorité de l'État en France. C'est que d'un moment à l'autre, tout s'arrête. Alors l'autorité de l'État combinée avec l'autorité du ministère de l'Intérieur, mais c'est énorme le rapport d'autorité verticale qui tombe sur les gens, quoi. Et donc là, du jour au lendemain, ça a été fini. Et du coup, d'ailleurs, mes travaux aussi, c'était terminé, mais jamais eu de retour. Mais jamais. Jamais. Et réellement, à partir de ce moment-là, les policiers de proximité et ceux qui les encadraient, ils en ont pris plein la tête. Alors, il y en a qui se sont resitués dans des approches de prévention, aujourd'hui, qui sont plus en lien avec la ville, dans les territoires, qui sont plus rattachés de la même façon au commissariat. Et il y a une partie des policiers de proximité qui ont refusé de re-rentrer dans une police d'intervention et qui se sont resitués sur des rôles, alors plus sur les loisirs, etc., ou d'intervention avec les municipalités. Donc, je crois que c'est... Il faut se rendre compte aussi que à l'intérieur de la police, c'est un vrai enjeu. C'est ça que je veux dire. Et que on peut pas perdre pour la démocratie. On peut pas ne pas lutter pour que la police elle-même, elle puisse rester profondément démocratique ou puisse encore plus le devenir. Alors la tolérance zéro, c'était la police. C'est devenu effectivement l'intervention tout le temps. Et là, l'intervention tout le temps, de l'intervention tout le temps au harcèlement, y a pas loin, quoi. Et quand en plus on a des jeunes qui, de fait, ont quitté l'école de plus en plus tôt, avec de moins en moins de possibilités de travail, avec un chômage qui s'est intensifié, avec un nombre de femmes seules qui élèvent ces gamins et que c'est vachement difficile. C'est-à-dire le contexte social autour, il a aussi énormément changé. C'est-à-dire que quand on était dans les années 80, si tu voulais bosser, t'allais bosser. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça se joue très très tôt ton destin. Donc si à 12 ans, tu pars comme guetteur, Parce que s'il était pris dans une histoire familiale aussi de survie, parce que c'est là aussi que ça a basculé, c'est que l'économie parallèle, c'est pas seulement pour aller s'acheter des Nike, c'est qu'aujourd'hui, c'est réellement une économie de survie pour des familles. Et qu'il y a des garçons qui sont responsables de la survie des familles. Donc quand ils vont bosser comme guetteurs, c'est pas qu'ils ont toujours le choix d'aller bosser comme guetteurs, c'est qu'ils sont pris dans un environnement social où pour que la famille vive, il faut aussi que ce soit ça. Alors c'est pas tout ça, il y en a aussi, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol de l'école et puis qu'ils vont en se tirer et tout. Mais on arrive à une situation où on a des gamins en France de 12-13 ans avec lesquels il n'y a plus un éducateur, il n'y a plus un enseignant, il n'y a plus un responsable éducatif. Voilà. Et les mamans, elles sont toutes seules à Grigny, on en parlait de ça avec Amarini, 100 gamins aujourd'hui qui ne sont plus en contact avec un seul adulte éducatif et des mamans qui ne s'en sortent pas. Et qui est-ce qui les réunit aujourd'hui? C'est le maire de Grigny, c'est la ville de Grigny. Eh bien, j'ai assisté à une réunion avec 100 mamans d'origine malienne qui disent « Mais qu'est-ce qu'on fait? Nos gamins se tuent, nos gamins n'ont pas d'avenir, nos gamins sont pris dans les trafics et on fait quoi avec ça? C'est qui nos interlocuteurs ?» Et c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face aussi à une situation sociale qui s'est intensifiée avec le Covid, où réellement, on a une partie de la population qui décroche du côté de l'accès au droit, du côté de la possibilité de vivre dans la légalité, du côté d'avoir, en fait, une économie de vie légale, quoi. Et donc, évidemment, ça change tout sur les niveaux des responsabilités. Et les mêmes mômes que tu vois qui se plaignent dans l'humiliation, ils sont pas que là. Souvent, ils tiennent des responsabilités, en fait, ailleurs aussi que dans le jeu d'affrontement, de harcèlement jeunes police. C'est qu'ils sont aussi ailleurs. Alors, pas tous. Il y en a qui sont essentiellement, j'allais dire, dans un rapport de harcèlement comme ça. Mais il y en a aussi derrière qui tiennent d'autres enjeux. Alors, c'est là qu'on est, en termes d'éducation, on est très, très coincé aujourd'hui. Parce que, en fait, on n'a pas les clés de ça. On n'a pas les clés de la question, effectivement, de relégaliser l'économie. Alors, si je reviens deux minutes quand même sur l'intervention sur la tolérance zéro, bah, ça a fait monter, effectivement, tous les jeux d'intervention violents. Et puis, ça a été aussi le changement des natures de police qui sont intervenues. Les bacs ont pris beaucoup d'importance. Hein. Donc, à l'intérieur même des corps de police, ce n'est pas les mêmes qui ont pris le pouvoir. Et donc, la présence de la BAC ne connaissait pas les jeunes. Alors que les policiers de proximité, ils connaissaient les jeunes, ils connaissaient les familles. Ils étaient en lien avec le maire, ils étaient en lien avec le commissaire. Moi, quand je bossais à Gennevilliers, au quartier du Lutte, j'ai bossé 2 ans au quartier du Lutte à la demande du procureur, du maire et du commissaire pour comprendre comment ça marchait autour des circuits de deal. Bon, ben c'était vraiment, on voyait bien que c'était une forme d'économie de survie, mais à l'époque, ça bossait ensemble, le maire, le commissaire et le procureur, pour essayer de se dire, mais comment on les sort de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on recrée de l'insertion? Comment on est complémentaire dans quelque chose qui va porter une forme d'inclusion sociale? Et à partir du moment où, effectivement, on a transformé, mais là, il faudrait en discuter davantage avec les spécialistes de la police, mais je pense qu'effectivement, cette question de la police d'intervention a fait passer à un registre d'affrontement avec des corps de police qui ne sont pas dans cette proximité territoriale et qui ne partagent pas, en fait, ce destin territorial. Et qui n'ont pas non plus, j'allais dire, la formation militaire, on va dire, de la gendarmerie ou même des CRS. Parce que ce n'est pas les mêmes formations. Et que, du coup, je pense que les bacs, enfin, je pense que ça constitue une difficulté. Et ça, et là, on voit quoi? Le pouvoir du préfet. C'est-à-dire, en fait, que là, où est-ce qu'il redonnait le pouvoir? C'est au préfet. Donc, je pense que c'est très intéressant aussi de se dire comment a changé l'organisation même de l'intervention policière pour comprendre pourquoi on en arrive à ça. Pourquoi? Et pourquoi aussi ça a lâché du côté du racisme, ça a lâché du côté du nombre de policiers aujourd'hui proches du Rassemblement National? Qu'est-ce qui se règle là pour eux?
Coupez les mains. Vous ne tuerez pas la musique. Écrasez les orteils. Vous n'empêcherez pas les longues marches. Brûlez les seins, vous n'éteindrez pas la beauté. Violez les sexes, vous ne souillerez pas la pureté. Tordez les bras, vous ne mutilerez pas la force. Peignez les visages. Vous n'étoufferez pas les cris. Vous êtes les gagnants d'un jeu dérisoire. Les gagnants sur l'innocence. Les gagnants d'un combat inégal. Les gagnants sur le vide. Vous êtes les perdants de l'amour, les perdants de la dignité, les perdants de la joie, les perdants de la vie. À chaque fois que l'on fusille, c'est un peu de notre sang qui s'en va. À chaque fois que l'on tue, c'est un peu de notre chair qui s'en va. À chaque fois que l'on torture, c'est un peu de notre liberté qui s'en va. À chaque fois que l'on garrotte, c'est un peu de notre âme qui s'en va. Vous êtes les amants de l'infamie, les amants du déshonneur, les amants de l'odieux, les amants de la mort. Vous êtes les médiocres de notre terre, les rebuts de notre terre, les déchets de notre terre, les excréments de notre terre. Les mains, vous ne tuerez pas la musique. Écrasez les orteils, vous n'empêcherez pas les longues marches. Brûlez les seins, vous n'éteindrez pas la beauté. Violez les sexes, vous ne souillerez pas la pureté. Tordez les bras, vous ne mutilerez pas la force. Bâillonnez les visages, vous n'étoufferez pas les cris.
Ce serait intéressant, justement, par rapport à tout ce que tu as dit, de voir comment, finalement, la spécificité, peut-être, de la situation du 12e arrondissement, où là, on a un arrondissement en voie de gentrification, etc., fait que les amendes ont pris un rôle très très important justement par rapport à cet arrondissement.
En fait, je pense que cet arrondissement, comme d'autres à Paris, mais quand même c'est très intéressant, c'est tout le problème de la mixité sociale. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir les mêmes formes d'intervention de tout, d'ailleurs, des éducateurs, de la police, de tout, quand on est à Clos Saint-Lazare ou à la Grande Borne ou même à la Planoise à Besançon avec 18 000 habitants, que dans des quartiers en gentrification urbaine comme à Paris. Parce que, en fait, à Grenoble, moi, j'ai retrouvé la même chose qu'à Paris, je retrouve la même chose à Bordeaux, c'est-à-dire des quartiers, en fait, des quartiers populaires qui ont explosé. C'est-à-dire, il y a une identité des quartiers populaires. Et quartier populaire, ça veut dire le croisement souvent de l'histoire coloniale et de l'histoire ouvrière de la France. Mais Patrice Leclerc, qui est maire de Gennevilliers, il en parle et il travaille très bien cette question de c'est quoi être populaire aujourd'hui. Et pourquoi effectivement ces quartiers populaires ont une singulière... Enfin, ils sont différents. Quand on est à la Grande Borne, eh ben, on n'est pas dans le 12e, quoi. C'est, voilà. Et que de fait, ça a aussi une identité, ça a aussi une histoire, ça a aussi une force de vie. Ces 80 femmes maliennes qui se réunissent, eh ben, on n'aura pas ça ici de la même façon, avec le maire, etc. On est ailleurs. Donc, quand on dit quartier populaire, on dit des choses très très différentes en fait. Et c'est vrai que je trouve que Paris est particulièrement compliqué. Parce que la force de la gentrification urbaine, elle fait aussi que en fait, c'est une façon que les pauvres ils vont partir. C'est-à-dire à force de faire pression aussi sur eux, sur l'espace public et tout, ça devient tellement invivable que même si les gens ils n'ont pas envie de partir de Paris, ils seront obligés de partir de Paris parce que ça devient trop dangereux pour leurs gamins. Et que réellement, là, il y a quelque chose, je trouve, d'assez, paradoxal dans la position de la municipalité, qui est à la fois de dire on garde les quartiers populaires, mais en fait, les quartiers populaires aujourd'hui ne sont pas protégés. Aujourd'hui, ils sont même attaqués. Voilà. Et donc, et là, il y a quelque chose qui est très violent. Mais aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de riverains bourgeois, on va dire, et là, il y a un rapport de violence de classe sociale. Alors, je vais venir après sur les amendes. Mais l'origine, c'est cet affrontement des classes sociales. C'est-à-dire, je pense aussi que l'affrontement des classes sociales, il est très puissant. Et que, de fait, il y a des gens, ils ne veulent plus dans l'espace public que ces gamins-là, ils y soient. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent, en fait, c'est qu'il y a des micro-quartiers, des petites parties de quartiers, qui deviennent les parties où les jeunes, là, ils se déchaînent, en fait, aussi. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus circuler. Donc, en fait, ils sont enfermés dans des micro-quartiers, et c'est là, souvent, qu'il y a des affrontements avec la police. Parce qu'en fait, ils viennent les chercher là et ils font monter l'affrontement. Et en montant l'affrontement, on dit aux riverains, vous voyez qu'on fait quelque chose. Mais en fait, la stratégie urbaine, elle les a enfermés dans un certain nombre de micro-lieux, dans leur propre quartier populaire. Et le quartier, il n'a plus rien de populaire. Donc, il y a aussi à regarder comment ça marche, les stratégies urbaines, avec l'intervention des forces de police et plus exactement l'école. On pourrait le regarder sur l'évolution de l'école. Alors l'école, c'est spectaculaire. Sur où est-ce qu'ils vont à l'école, ces mômes-là? Et où les autres, surtout ceux qui arrivent de la bourgeoisie, où est-ce qu'ils vont à l'école? Pourquoi ils vont dans les écoles privées? Pourquoi ils ne vont pas dans les écoles publiques? Donc on a affaire, je pense qu'on est en relatif échec, même on est en échec, sur l'inclusion sociale. C'est-à-dire on est aujourd'hui en échec. Alors c'est vrai que les gens les plus ouverts à l'inclusion sociale, ils sont partis sur la première couronne. Voilà. On les trouve aujourd'hui à Montreuil, on les trouve à Aubervilliers, on les trouve... Qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui sont les plus ouverts à l'inclusion sociale et qui, de façon souvent militante, sont pour une inclusion sociale, c'est les hussards qui arrivent les premiers, quoi. Ceux-là, ils sont sur la première couronne de la région parisienne, mais ils sont plus dans Paris. Et dans Paris, qu'est-ce qu'on a? On a des gens bourgeois, ça coûte cher d'habiter Paris, ils veulent vraiment être chez eux. Et je pense que ça, il faut quand même aussi l'analyser, parce que le pauvre gamin, il ne va pas analyser tout ça, mais lui, il va se payer sur le dos de représenter tout ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est l'enfant qu'on va chasser, quoi. C'est terrible, hein, c'est la chanson de Prévert. Donc, c'est la chasse à l'enfant. Parce que, de fait, il y a un moment donné, ces enfants-là, ils sont plus supportables. Et il ne faut pas penser que c'est que le rapport jeune police, ça. C'est que réellement, les riverains n'en veulent plus. Les habitants n'en veulent plus. Et le pouvoir politique, il est complètement lié à ça. Donc je pense aussi que derrière, j'allais dire le rapport jeune police, il symptomatise tout ça. Voilà. Et il vient même le mettre en acte. Alors la question des amendes, comment on arrive aux amendes, c'est ça? Moi je pense en fait que, effectivement, les amendes, elles ne sont pas partout. Moi j'ai regardé, dans les grands quartiers, là, comme Grigny et tout, ils ne mettent pas d'amendes. Très peu.
Alors moi j'avais fait à l'époque, dans le documentaire, par exemple, à Argenteuil.
À
Cité-Champagne.
Mais ils ont des stratégies très différentes. Sur les amendes, moi, je vois des stratégies aujourd'hui très différentes. Ça va sûrement changer avec le fait que ça va se généraliser. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà pendant le Covid, il y a eu des stratégies complètement différentes. Pendant le Covid, tu as eu des quartiers où on n'a pas mis d'amende. Et un éducateur, il disait « Oh ben oui, de toute façon, c'est des Arabes, c'est pas la peine, ils vont mourir entre eux, c'est bon, quoi. » Mais il y a réellement des quartiers où tu n'as pas eu d'amende. Et puis, tu as eu des quartiers où tu as eu plein d'amendes Covid. Il y a un lien entre les quartiers où il y a eu des amendes Covid et maintenant les amendes, la poursuite des amendes. C'est-à-dire le Covid a été aussi un moment de passage, un changement d'intervention avec cette question des amendes. Et que du coup, c'est devenu... Et je pense que dans la politique de Darmanin, le fait aussi, de condamner sur des conduites, moi, ce que je disais à Nathalie, mais je pense que la question des amendes, elle se centre sur des conduites qu'on rend délictuelles, qui sont des conduites quotidienne des jeunes. Le jeune qui met pas son casque et qu'il se met à un endroit où il n'a pas le droit d'y être, c'est tous les jours, quoi. Donc on est en train de passer de conduites qui sont habituelles pour des jeunes, dont ils ne vont pas pouvoir se défaire comme ça, c'est impossible. Parce que stationner dans son hall, quel est le jeune qui ne va pas stationner dans son hall pour retrouver ses copains? Mais je veux dire, c'est historique. Bon, donc Darmanin, il prend des conduites habituelles de jeunes pour les transformer en délits. Et donc là, ils vont se faire pincer à chaque fois. À chaque fois. Et pire que ça, ils utilisent maintenant la vidéosurveillance. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas se protéger en disant « je vois la police, je vais arrêter, je vais jeter mes clés, je vais voir mes copains, je vais avoir une stratégie avec ça ». Il n'y a même plus de stratégie d'évitement policier. Puisque de toute façon, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être pris en photo. Donc cette question-là, dans les halls, elle est extrêmement grave. Ça veut dire qu'à tous les moments, ils peuvent être en situation d'infraction. Donc ça veut dire qu'être présent dans l'espace public avec leur conduite habituelle, qui sont, oui, qui peuvent être à la limite, bon, ne pas porter son casque, etc., mais enfin bon, qui sont quand même pas trop graves, deviennent en fait une première marche du pénal. C'est quand même hyper grave, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de conduite habituelle qui demanderait un travail éducatif, qui supposerait effectivement d'y travailler. Je veux dire, c'est pas, ils font pas des fois dans les halls, ils font des fois n'importe quoi. Je veux dire, c'est vrai. Mais ça, on sait le travailler avec la médiation sociale, on sait le travailler avec les éducateurs. Mais où va être le champ éducatif, là? Où est-ce qu'il est, le champ éducatif, à partir du moment où eux, ils savent qu'ils peuvent être pris en photo et que là, ça va effectivement renforcer dans leur tête qu'en permanence, ils sont dans le soupçon policier du rapport avec la police. Mais où vont être les éducateurs là-dedans? Comment les éducateurs peuvent encore se positionner comme régulateurs de l'espace public à partir du moment où il y a ce risque d'être pris en caméra tout le temps? Sans compter que c'est certains jeunes qui vont être alignés sur la caméra, ceux qui sont connus par la police. Donc il y a vraiment quelque chose de très très grave avec les amendes d'une part, parce que c'est la massification de la punition sur des conduites et des conduites habituelles qu'on transforme en délit et sur lesquelles on ne peut plus faire de travail éducatif, et qui en plus délit première marche du pénal. C'est quand même hyper grave. Et en plus de ça, la massification, enfin la question Big Brothers, de se retrouver en capacité d'être pris dans l'image sans recours. Sans recours, quoi.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit: j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verbes rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, des droits et des hommes. aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme Paris 12e, sur les pratiques de verbalisation abusive des jeunes dans les quartiers populaires. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait du film de Marc Ball.
Ils sont venus comme ça, hein, contrôle banal, mais c'était pas un contrôle banal pour moi en tout cas. J'étais tout seul, ils sont arrivés vers moi, ils ont même pas essayé de me contrôler. Hein. Ils m'ont lynché par terre, ils ont jeté mes chaussures, etc. Après, ils sont repartis comme si de rien n'était. On va dire maintenant, quand je les vois, j'hésite pas, je prends directement la fuite par peur des amendes et qui me frappent, etc. Et on va dire là, pendant le confinement, j'ai dû prendre, on va dire, 3-4 000 euros d'amende, facilement. Gratuitement en plus. Les amendes, la plupart du temps, c'est pour des choses comme des détritus. Pendant le confinement, c'était le regroupement. Et la plupart du temps, là, avec comme il n'y a plus le confinement, ils nous mettent des amendes pour tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi, détritus, crachats, n'importe. Tout ce qu'ils peuvent mettre, ils vont te le mettre en gros. Et ben voilà. Après, à force, les amendes, après, le prix augmente, etc. Et voilà, maintenant ça fait des sommes astronomiques d'amendes qu'on leur donne à l'État.
Si t'es là toute la journée, par exemple, si tu passes, si t'attrapes trois fois, t'auras trois amendes dans la journée. Et après, tu les reçois. Et après, nous, les amendes, on les laisse un peu dormir. On n'essaie pas de... Comme nous, on est jeunes, on se dit on va pas payer tout ça. Mais au final, on nous dit qu'on va les payer. Mais nous là, pour l'instant, on est en mode normal. Mais là, à la fin, enfin, dans quelques années, là, on va payer les pots cassés, là.
Moi, j'étais victime. J'étais victime, ils ont pris au moins 1500 euros dans mon compte bancaire livré A que ma mère a fait quand j'étais petit. Et j'ai aussi été victime de plusieurs d'agressions. Genre, ils m'ont tapé pendant des contrôles. On n'a pas fait du mal aux gens, je sais pas. On est posé devant des parkings. Ils peuvent venir nous courser dans le parking, puis nous gazer. Et après, nous relâcher, comme ça. Nous on n'en peut plus. Nous, on veut que... On veut pas ça, nous. On veut juste se poser, rester entre amis. C'est tout.
On ne pense pas à porter plainte parce que... On sait qu'au final, ils vont toujours gagner. Nous, ça aura servi à rien, perdre de temps, tout ça. C'est-à-dire, on laisse passer.
Ça mène à rien, en vrai. Dans l'histoire, ils vont toujours gagner. C'est eux la loi. On ne peut pas porter plainte contre la loi. C'est qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on a tort.
Voilà, qu'on ait tort ou raison, on a tort. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on se disait, effectivement, ce que je trouve intéressant dans votre comparaison, on peut pas mettre toutes les situations sous le même dénominateur quartier populaire, parce qu'effectivement, et c'est souvent quelque chose moi qui est revenu, parce que quand j'ai fait mon premier, donc le documentaire Police illégitime violence, je suis allé un peu à la rencontre de tous les groupes. Les comités qui se sont organisés, les familles, etc. Et effectivement, il y a souvent des bavures beaucoup plus graves. Il y a mort d'homme, etc. Et souvent, le 12e était vu un peu comme mais il se passe rien dans le 12e, c'est calme. Et en fait, c'est assez intéressant parce que justement, c'est une violence qui est un peu plus. On parlait d'humiliation tout à l'heure. Il y a quelque chose d'un peu plus à bas bruit, un peu justement dans la banalité, la normalité. Et dans ce que vous disiez, effectivement, le côté, dans le 12e, il y avait eu un côté anomalie, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces jeunes de banlieue, finalement, au cœur de Paris, d'un Paris bourgeois, c'est assez effrayant, en fait, ce que tu décris, qui est, mais en fait, à terme, l'objectif, c'est de les faire partir de là, quoi. Et quelque chose. Alors effectivement, chaque quartier a un peu sa spécificité, mais il y avait un truc qui revenait aussi bien à Argenteuil que dans le 93, que dans le 12e. C'était en général, ça concerne les mineurs. En fait, c'est vraiment de 13 à 17 ans. C'est là qu'il y a le plus d'interactions violentes avec la police. C'est là qu'il y a la question des amendes parce qu'ils sont dans la rue. Et donc ça pose pour moi une vraie question de... en fait, c'est presque... on essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, en fait. C'est presque comment on fait en sorte qu'ils ne rentrent pas dans la vie économique. qui ne rentrent pas dans une vie normale dès l'adolescence. Il y a un côté... parce que plane après le soupçon un moment. Est-ce qu'à côté, ils ont des activités illégales ou pas? Moi, pour les avoir côtoyés, ceux du 12, je sais à peu près qui faisait quoi. Et dans l'eau, il y en a qui faisaient des bêtises, on va dire, d'autres non. Mais peu importe, ils sont tous dans le même lot à la fin. Tous se font contrôler et tous prennent des amendes. Et c'est là où ce système, au-delà, et c'est eux-mêmes qui le disaient, c'est-à-dire finalement, à la limite, les coups, ils préfèrent, quoi. Ils préfèrent une garde à vue, parce qu'une fois, voilà, on sort de garde à vue, c'est fini, ils ont l'habitude, on défait les lacets, c'est normal, quoi. Par contre, les amendes, non. Ça tape au portefeuille, les parents, ils font la gueule, le livret A, le gamin qui dit ça, t'imagines la mère qui a économisé. Enfin, c'est vraiment... Et donc, pour moi, ça rejoint ce que tu disais sur le côté, à terme, on va faire en sorte que vous n'ayez pas les moyens de rester là et que vous ne puissiez pas rentrer dans la vie économique. Et je me demande à quel point c'est fait pour faire en sorte que cette méritocratie qui n'existe pas, c'est une des manières, parce que c'est quand même le lot... Ça, c'est quand même un point commun dans tous les quartiers populaires, des jeunes noirs et arabes sont confrontés à la police, au contrôle de police récurrent, à des gardes à vue, etc., ce qui compromet leur avenir à chaque fois. Et donc là, on voit que la technique des amendes aussi compromet. Avant même de commencer à rentrer dans la vie active, t'es déjà endetté. Et donc, il y a comme un tri qui se fait à travers ces techniques-là, qui fait que pour rentrer dans la vie active, ça va être deux fois plus dur. Et donc pour les autres, ben c'est deux fois plus facile, quoi. Et il y a presque quelque chose pour moi qui est ressorti de ça, qui est, en fait, on élimine la concurrence, quoi, avec cette jeunesse des quartiers populaires.
Ce que tu dis, c'est très très important, parce que je crois que aujourd'hui, dans la politique du ministère de l'Intérieur, il y a quelque chose de séparer le bon grain du mauvais grain. C'est-à-dire, en fait, très très tôt maintenant, ça serait tu es de quel côté ? T'es du côté de t'es un bon français, t'es un mauvais français, et tu choisis ton camp. Et tu choisis ton camp très tôt. Alors, la question policière en fait partie, mais pas seulement. Par exemple, la question de la loi sur le séparatisme. La question aujourd'hui de comment t'es reconnu dans ton identité, le fait que t'es musulman, le fait qu'un jour tu puisses te voiler et le lendemain tu vas pas te voiler. Eh ben, est-ce que cette zone-là, qui est très importante à l'adolescence, de un jour je me marque comme ça, le lendemain je me marque autrement, et puis d'ailleurs un jour je vais finir par me marquer tout à fait ailleurs. Ben, cette zone-là, c'est une zone démocratique. C'est qu'en fait, à l'adolescence, ça n'existe pas en soi. Ça existe parce qu'on protège les jeunes de telle façon qu'ils puissent avoir ce jeu d'essai-erreur. Si effectivement, demain, à 12 ans, il faut que tu saches exactement de quel côté tu es et dans quelle filiation tu es, ben, ça veut dire qu'il y a une détermination. Et c'est ça qui me touche beaucoup. C'est qu'effectivement, je trouve ça inacceptable que dans un monde comme la France, on puisse dire qu'il y a des jeunes à 12 ans, t'es de quel côté ? Voilà. Et t'es de quel côté de l'histoire ? Voilà. Et ça, c'est l'extrême droite. Ça, c'est déjà l'extrême droite. C'est effectivement que parce que t'es de... Voilà. Et très vite, évidemment, ça sera pris, c'est parce que t'es noir, parce que t'es arabe. Mais en fait, c'est tout un ensemble de comportements. C'est pas seulement ça. Et il y a des noirs et des arabes qui ne seront pas de ce côté-là. Et qui, eux, vont faire le choix aussi d'une certaine forme d'intégration. Donc, il y a aussi une séparation qui va se faire à l'intérieur de la population. Et ça, c'est très, très... Enfin, c'est très, très dur. C'est très, voilà. Et moi, je pense que là, il y a quelque chose dans la politique d'aujourd'hui, de ce gouvernement, qui, effectivement, change par rapport à avant. C'est-à-dire, c'est assumé. Punir les pauvres, c'est assumer. Massifier, c'est assumer. Le fait de dire à 12 ans, t'es de quel côté, c'est assumer. Et donc, tout ce qu'on a créé, j'allais dire, pour éduquer les jeunes, pour les amener à la démocratie, pour faire qu'effectivement les familles puissent s'y retrouver, parce qu'elles seront aussi protégées du côté du droit. Et bien, qui c'est qui est attaqué aussi ? C'est la justice des mineurs, c'est les éducateurs, c'est tout le tiers. C'est tous les gens qui faisaient ce travail d'accompagnement. Comment aujourd'hui un jeune, il va aller voir un éducateur et croire que l'éducateur, il a du pouvoir pour l'aider à s'en sortir dans un système comme ça, où de fait, on va aller chercher dans son livret A ? Mais comment un éducateur de rue de prévention spécialisée va-t-il être crédible vis-à-vis de ce jeune-là sur le fait qu'il a vraiment un rôle dans son histoire et dans le fait qu'il va pouvoir s'en sortir autrement ? Eh bien, c'est ça qui est en question aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une rupture quand même, par rapport même à ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire là, il y a une rupture et je mets en lien la loi sur le séparatisme, la question effectivement et l'évolution des contrôles et l'évolution aussi de l'insertion sociale et professionnelle, la question du devenir des lycées professionnels. Je veux dire, il y a quelque chose qui fait système en ce moment. Et ça, je pense qu'effectivement, ce n'est pas complotiste. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pensé et ça ressemble fortement quand même à une pensée de l'extrême droite. Voilà. Et ça, en ça, M. Darmanin, ce n'est pas tout le gouvernement, mais lui, il avance d'une certaine façon. Et je pense que c'est intéressant la question des amendes, parce que les amendes, elles viennent signifier cette façon d'avancer. Donc elle a un sens politique, et profondément politique. Et c'est pour ça que, bien sûr qu'il faut le traiter d'un point de vue juridique et technique, mais il faut quand même bien identifier le projet politique que portent ces évolutions-là.
Oui, alors avant de laisser Nathalie Théot nous expliquer justement tous les aspects juridiques de ces verbalisations, juste quelques données finalement pour montrer le caractère massif de la verbalisation des jeunes habitants. Donc en fait, dans le 12e, le collectif Place aux Jeunes qui s'était constitué en 2016 pour soutenir justement les jeunes plaignants dont on avait parlé tout à l'heure, a mis en place un atelier contravention pour répondre à la demande des jeunes habitants confrontés donc à ce problème, et notamment, donc c'était un atelier finalement écrivain public qui consistait d'une part à les aider dans les démarches de contestation, parce que la première idée par rapport à ces amendes qu'ils considéraient comme totalement injustes, ça a été de les contester, et puis d'autre part dans une négociation avec la trésorerie Paris Amende pour obtenir des délais de paiement pour éviter les saisies et si possible des remises gracieuses. Donc c'est un atelier qui s'est mis en place avec le club de prévention Feu Vert, ERAR, et notamment avec l'éducateur spécialisé Mohamed Aknouch, qui avait été alerté par la situation d'endettement très très préoccupante de jeunes habitants, et de jeunes habitantes d'ailleurs, qui étaient suivis par le club de prévention. Et il y a une juriste et sociologue, Aline Deller, qui a participé aussi aux réunions de cet atelier et qui a, à la suite de ce travail, sorti un rapport sur le sujet qui s'appelle « La justice dans la rue » et qui est suivi actuellement par un travail de thèse sur la question. Alors, en fait, avec toutes ces rencontres avec les jeunes verbalisés et toute cette ces amendes réunies ont été constituées deux échantillons. Il y a un premier échantillon qui est sur une période antérieure à la pandémie, donc jusqu'en 2019, 2016-2019, de 233 contraventions qui étaient reçues par 40 jeunes habitants-habitantes, représentant un montant de 37 567 euros précisément, près de 40 000 euros. Donc c'est pour montrer quand même le caractère à la fois très important, parce que c'est quand même des sommes colossales. Et en plus, ce n'est qu'une partie des amendes, parce que il y avait les éducateurs spécialisés nous disaient, mais nous, on pourrait en avoir beaucoup plus, mais certes, les jeunes ne nous les apportent pas toujours. Voilà. Donc, c'est loin de représenter évidemment l'ampleur de la verbalisation, mais ça représente quand même pour les jeunes de cet échantillon en moyenne une dette d'amende de près de 1 000 euros pour chacun. Alors, c'était des amendes effectivement pour tapage. Alors, c'est le motif le plus récent, mais tapage diurne aussi, pas seulement nocturne, donc voilà, dépôt d'ordures et déversement de liquide insalubre. C'était en quelque sorte les trois principaux motifs, et souvent les amendes sont, c'est le package, c'est-à-dire qu'en fait les jeunes recevaient ces amendes une, deux, mais souvent deux ou trois. Par exemple, l'un des jeunes de cet échantillon, de ce premier échantillon, a reçu 11 amendes au cours de 4 contrôles. Donc ça fait quand même une moyenne très importante. Et ça représentait, avec les majorations de certaines de ces amendes, une dette de 2 500 euros. Donc 4 contrôles, 2 500 euros de dette. Un autre avait reçu 8 amendes représentant, avec les majorations, 1547 euros. Un autre qui était âgé de 14 ans, donc vraiment très jeune, avait reçu 5 contraventions au cours d'un même contrôle. 3 amis, discutant au bas de leur immeuble, ont reçu chacune 3 contraventions de 68 euros, donc soit 204 euros par jeune fille. Et les motifs étaient toujours les mêmes, donc dépôt d'ordures, déversement de liquide insalubre, tapage. Donc ça représentait au total pour ce groupe 612 euros. Et quand on pense que ces jeunes filles voulaient éviter d'aller au café parce qu'elles n'avaient pas de sous, donc on voit que vraiment c'est vraiment très, très, très paradoxal et très lourd. Et encore un exemple, un groupe de jeunes qui a reçu 15 contraventions donc au cours d'un seul contrôle, donc c'est en fait une verbalisation, on peut dire, indiscriminée. Tous les jeunes ont été verbalisés, donc ça représente 1020 euros avant majoration, et comme souvent les jeunes ou les familles n'ont pas la possibilité de payer tout de suite, 3180 euros, ces majorations. Voilà, alors il y a un deuxième échantillon qui a été constitué au moment de la pandémie, et qui est constitué de 141 amendes reçues par 46 jeunes, avec donc des motifs principalement liés au respect des consignes sanitaires. D'ailleurs, souvent, c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est le même motif qui est plusieurs fois verbalisé. Donc là, ça représente cet échantillon 17 861 euros hein, pour donner les sommes. Ce sont des amendes à 135 euros. Comme elles ne sont pas payées tout de suite, le plus souvent, ça veut dire que la majoration est à 375 euros. Et donc, ça représente des montants rapidement considérables. Et alors, à ces amendes de la pandémie pour l'échantillon, s'ajoutaient les amendes antérieures à la pandémie, ce qui fait que pour ces 46 jeunes habitants, on arrivait à, là encore à 37 000 euros de dette d'amende. Alors, je vais terminer juste par quelques exemples. Un jeune a reçu 20 contraventions liées à la pandémie, qui représentent une dette de 4650 euros. Donc, c'est ce que tu disais, Marc. Là, son avenir est carrément compromis par le fait qu'avec cette dette d'amende qu'il ne pourra pas payer, eh ben, il sait que si, dès qu'il va commencer à travailler, il sera saisi sur son compte. Et donc, c'est un grand facteur de découragement pour les jeunes qui disent « Mais est-ce que je vais travailler pour payer mes amendes ?» Donc certains renoncent ou alors ils font des combines pour essayer d'échapper à cette dette. Et simplement pour terminer, dans 16 cas recensés, les jeunes avaient reçu 2 amendes pour non-respect du confinement. Donc en fait, par rapport au caractère, on sait que la jeunesse a énormément souffert au moment de la pandémie. C'était très compliqué pour eux de se confiner parce qu'ils n'étaient pas les premiers concernés finalement. Et au lieu, je dirais que l'amende soit l'occasion d'une pédagogie, mais là, ce n'est pas une amende pour expliquer que ce serait bien qu'ils respectent le confinement, mais c'est carrément 3 amendes. Et donc, c'est vraiment extrêmement lourd comme pénalisation. Il y a cette pratique maintenant que les jeunes appellent boîte à lettres, c'est-à-dire que quelquefois, ils sont dans l'espace public et ils nous disent que une voiture de police passe et un fonctionnaire de police leur fait signe en disant « boîte à lettres » et ça veut dire qu'ils vont recevoir des contraventions. Donc ça, c'est effectivement une pratique qui rejoint ce que disait Joël Bordet de l'usage de quelquefois de la verbalisation à distance, en tout cas sans s'arrêter pour
Nous n'avons plus besoin de vous et de vos témoignages, madame.